Première partie. Devinette. Chapitre 1. Sous la lune du démon. Grand 1. 1. Candleton, amas de ruines irradiées, n'était pas une ville morte pour autant. Après tant de siècles, elle palpitait encore d'une vie ténébreuse. Scarabées gros comme des tortues, oiseaux à l'air de dragonnets difformes, robots titubants d'un bâtiment délabré à l'autre, tels des zombies en inox, dont le bruit strident de leurs jointures est le clignotement de leurs yeux nucléaires. « Montre ton passe, mon pote !» s'écria celui qui était resté prisonnier du hall d'entrée de l'hôtel des voyageurs depuis les 234 dernières années. Il portait, gravé en relief sur le losange rouillé qui lui tenait lieu de tête, une étoile à six branches. Au fil des ans, il avait réussi à creuser une cavité étroite dans le mur gainé d'acier qui lui bloquait le passage, mais c'était bien là tout. « Montre ton passe, mon pote. Risque d'élévation du taux de radiation au sud et à l'est de la ville. Montre ton passe, mon pote. Risque d'élévation du taux de radiation au sud et à l'est de la ville. » Un rat aveugle et bouffi, traînant ses tripes derrière lui dans ce qui avait l'apparence de placenta pourrissant, franchit à grand-peine les pieds du robot de police. Ce dernier n'y prêta pas garde et continua de bourrer de coups de tête d'acier la paroi d'acier qui lui faisait face. « Montre ton passe, mon pote, risque d'élévation du taux de radiation. Papa a trahi, les dieux l'ont maudit. » Derrière lui, au bar de l'hôtel, les crânes des hommes et des femmes venus boire un dernier verre avant que le cataclysme ne les rattrape arboraient un large rictus comme s'ils étaient morts en riant. Peut-être était-ce le cas de certains d'entre eux. Quand Blaine le mono fendit la nuit là-haut comme une balle propulsée dans le canon d'un revolver, sur son passage des fenêtres se brisèrent, de la poussière s'éparpilla et plusieurs crânes se désintégrèrent tels d'antiques poteries. À l'extérieur, un cyclone de poussière radioactive balaya brièvement la rue, et sa colonne spiralée ne fit qu'une bouchée de la barre d'attache des chevaux devant le restaurant « Au bœuf et porc élégant ». Sur la place, la fontaine de Candleton se fendit en deux, crachant non plus de l'eau, mais du sable, des serpents, des scorpions mutés et quelques-uns de ces scarabées tortues se trimballant à l'aveuglette. Puis le bolide qui avait foncé au-dessus de Candleton disparut comme il était venu, et la ville retourna à l'inactivité croulante qui lui tenait lieu de vie de substitution depuis deux bons siècles et demi, si ce n'est que le bang supersonique, lançant à retardement son coup de tonnerre au-dessus de la ville pour la première fois depuis 7 ans, causa suffisamment de vibrations pour faire s'écrouler le magasin général non loin de la fontaine. Le robot de police tenta de prononcer un avertissement final, risque d'éléva, avant de rendre une bonne fois les armes dans son coin, comme un enfant mis au piquet. À 200 ou 300 roues de Candleton, le long du sentier du rayon, le taux de radiation et la concentration de DEP3 dans le sol diminuaient rapidement. À partir de là, la voix du monorail s'élevait à moins de 3 mètres au-dessus de terre. C'est là qu'une biche, à l'allure presque normale, quitta gracieusement le couvert des pins pour aller se désaltérer dans un ruisseau dont l'eau était aux 3/4 assainie. Mais, à y regarder de plus près, cette biche n'était pas d'une normalité à toute épreuve. Un moignon de 5e patte lui pendouillait comme un treillon du bas-ventre, ballottant mollement de ci de là au gré de ses déplacements. Et un 3e œil aveugle ouvrait sa taie laiteuse sur le côté gauche de son museau. Elle était néanmoins féconde, car son ADN n'était pas des plus chamboulés pour une mutée de la 12e génération. En 6 ans d'existence, elle avait donné naissance à 3 rejetons. 2 de ses fans, non contents d'être viables, étaient parfaitement normaux. Du bétail de bon aloi, aurait dit Tantine Talitha de River Crossing. Le 3e, une abomination braillarde dépourvue de peau, avait été achevée rapidement par sa génitrice. Le monde, du moins dans cette partie-là, avait commencé à se régénérer de lui-même. La biche, trempant son museau dans l'eau, se mit à boire, puis releva la tête, les babines ruisselantes, ses grands yeux en alerte. Elle venait d'entendre au loin un sourd bourdonnement. Un instant plus tard, il s'accompagna d'un flash lumineux, bref comme un battement de cils. Malgré l'extrême rapidité de ses réflexes et le relatif éloignement de l'éclair dans le paysage désolé quand elle l'aperçut, elle n'avait aucune chance d'en réchapper. Avant même d'avoir pu mobiliser ses muscles, la lointaine étincelle était devenue l'éclat fulgurant d'un œil de carnassier dont le flamboiement inonda le ruisseau et la clairière. À cela s'ajoutait le vrombissement à rendre fou des turbines à transmission lente de Blaine lancées à plein régime. Il y eut une roseur floutée au-dessus de la poutre de béton qui supportait le rail, un panache de poussière, de pierres, de petits animaux démembrés et de tourbillonnants feuillages l'escortaient. La biche fut tuée sur le coup et sous le choc du passage de Blaine. Trois volumineuses pour être aspirées par le monorail, elle n'en fut pas moins déportée d'une centaine de mètres, l'eau dégouttant toujours de son museau et de ses sabots. Son arrière-train et sa cinquième patte arrachée comme un vêtement mis au rebut suivirent Blaine dans son sillage. Il y eut un bref silence, aussi fragile qu'une peau neuve ou que la pellicule de glace précoce d'un étang au terme de l'année. Puis le bang supersonique se répercuta après coup, comme une créature arrivant bruyamment en retard à un festin de mariage, déchirant le silence, frappant net en plein vol un oiseau mutant, un corbeau peut-être bien. L'oiseau tomba comme une pierre dans le ruisseau, avec une seule éclaboussure. Un œil rouge allait déjà s'amenuisant au loin, les feux arrière de Blaine. Dans le ciel, tout là-haut, la pleine lune sortit de derrière la trame des nuages, badigeonnant la clairière et le ruisseau d'un clinquant de bijoux mis au clou. La face de cette lune n'avait rien pour attirer le regard des amoureux. Elle avait l'aspect hâve d'une tête de mort, proche parente de celle de l'hôtel des voyageurs de Candleton, et toisait avec l'amusement d'un aliéné ceux qui se démenaient en bas pour survivre tant bien que mal. À Gilead, avant que le monde n'ait changé, on appelait la pleine lune du terme de l'année la lune du démon, et on jugeait que la regarder en face portait malheur. À présent, toutefois, ça n'avait plus d'importance. Des démons, il y en avait partout. 2. Susanna, en regardant la carte itinéraire, vit que le point vert qui indiquait leur position était à présent à mi-chemin entre Candleton et Rilea, prochain arrêt de Blaine. « Mais qui descend donc là » songea-t-elle. Laissant la carte de côté, elle se tourna vers Eddie, qui fixait toujours le plafond du compartiment de la baronnie. Épousant son regard, elle aperçut un carré qui ne pouvait être qu'une trappe. Sauf qu'à bord d'une mer de futuristes comme un train parlant, on était sans doute censé appeler ça un sas ou un truc encore plus cool. À sa surface, un dessin rouge, imprimé au pochoir, représentait un homme empruntant ses tissus. Susanna s'imagina, tenta du moins, suivre cette instruction et passer la tête au dehors à plus de 1 280 km/h. Elle eut la vision brève, mais très claire, d'une tête de femme fauchée comme une fleur sur sa tige, tête filant à rebours sur toute la longueur du compartiment de la baronnie, et, après peut-être un seul et unique rebond, disparaissant dans le noir, les yeux fixes et les cheveux ondoyants. Elle repoussa très vite cette image. Le panneau était certainement verrouillé, de toute façon. Blaine le Mono n'avait aucune intention de les relâcher. Il leur faudrait conquérir leur droit de sortie de haute lutte, et d'après Susanna, c'était loin d'être dans la poche, même s'ils se débrouillaient pour coller Blaine aux devinettes. « Navré de te dire ça, ma jolie, mais tu raisonnes comme une enculée de blanche à la con !» lui dit une voix intérieure qui n'était plus tout à fait celle de Detawaka. « Je me fierai pas à ton cul à roulette. T'as tendance à être plus dangereuse quand tu déprimes qu'avec la croix d'honneur épinglée à tes banques de données. » Jake tendit son bouquin de devinettes en lambeaux au pistolero comme s'il ne voulait plus assumer la responsabilité d'en être porteur. Susanna devinait ce que le gosse devait ressentir. Le fil de leur vie pourrait bien tenir entre ces pages salies d'avoir été trop feuilletées. Elle n'était pas sûre qu'elle-même aurait accepté d'endosser une telle responsabilité.
volante,
chuchota Jake.
Tu veux bien prendre ça ?
Ça, dit Otté, lançant un coup d'œil menaçant au pistolero. Olin, tra, ça ! Le bafouilleux planta ses dents dans le livre et l'ôtant des mains de Jake étira son cou d'une longueur disproportionnée vers Roland pour mieux lui présenter l'exemplaire de Traderidera, devine-moi, remue-ménage et énigme de 7 à 77 ans. Roland l'examina un instant d'un air distant et préoccupé avant de le refuser d'un signe de tête.
Le moment n'est pas encore venu.
Son regard se tourna vers la carte itinéraire. Blaine étant dépourvu du visage, elle leur servait de point de référence. Le point vert clignotait tout près de Rilea, maintenant. Susanna se demanda brièvement à quoi ressemblait le paysage qu'il traversait avant de décider qu'elle préférait ne pas le savoir. Pas après ce qu'ils avaient vu en quittant la cité de Lude.
« Blaine !» appela Roland.
« Oui ?»«
Tu peux t'absenter ? Il faut qu'on se consulte. »«
T'es complètement barge si tu crois qu'il va accepter ça ?» se dit Susanna. Mais la réponse de Blaine ne se fit pas attendre.
Oui, pistolero, je vais désactiver tous mes détecteurs dans le compartiment de la baronnie. Quand vous aurez fini de vous consulter et que vous serez prêt à jouer aux devinettes, je reviendrai.
Oui, tu parles, Charles,
bougonna Eddie.
Qu'as-tu dit, Eddie de New York?
Rien, je me parlais à moi-même, c'est tout.
Pour m'appeler, il suffit que vous touchiez du doigt la carte itinéraire, dit Blaine. Tant qu'elle est rouge, mes détecteurs sont désactivés. À toute, ma choute, à plus, ma puce. Oublie pas de m'écrire.
Une pause, puis...
Huile d'olive, mais pas de castor.
À l'avant de la cabine, le rectangle de la carte itinéraire vira soudain un rouge si éblouissant que Susanna dut plisser les yeux pour pouvoir le fixer.
Huile d'olive, mais pas de castor, demanda Jake.
Sapristi, ça veut dire quoi ?
Aucune importance, répondit Roland. Nous n'avons pas beaucoup de temps, le monorail fonce toujours vers son terminus, que Blaine soit ou non avec nous.
Tu crois quand même pas qu'il est parti, hein ?
Dit Eddie.
Un petit futé comme lui ?
Déconne pas, sois réaliste. Il nous a à l'œil, je te le garantis.
J'en doute fort, répliqua Roland.
Et Susanna, sur ce point-là du moins, était d'accord avec lui.
Tu as entendu comme il était excité à l'idée de rejouer aux devinettes après toutes ces années ?
Et puis, il a une énorme confiance en lui, ajouta Susanna. Il ne s'attend pas qu'on lui donne beaucoup de fil à retordre.
Et on lui en donnera ? Demanda Jake au pistolero. Du fil à retordre, je veux dire.
J'en sais rien, répondit Brandt. J'ai pas un surveille-moi caché dans ma manche, si c'est ce que tu veux savoir. On va jouer à la loyale, mais du moins à un jeu auquel j'ai déjà joué. On y a déjà tous joué, du moins jusqu'à un certain point. Et puis, il y a ça.
Il désigna de la tête le livre que Jake avait repris à ôter. Il y a des forces énormes au travail ici. Et elles ne conspirent pas toutes pour nous tenir éloignés de la tour. Susanna l'entendait bien, mais c'était à Blaine qu'elle pensait. Blaine qui les avait laissés entre eux. Comme à cache-cache, celui qui s'y colle se masque docilement les yeux, tandis que ses camarades se dissimulent. Et était-il autre chose que les camarades de jeu de Blaine ? Cette idée était encore pire que de s'être imaginé sortir par le sas et avoir la tête arrachée.
« Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Eddie.
« Tu dois avoir une idée, sinon tu l'aurais pas éloigné. »
Sa grande intelligence, couplée avec une longue période d'isolement et d'inactivité forcée, ont pu se combiner pour l'humaniser plus qu'il ne pense.
C'est ce que j'espère en tout cas. Il nous faut d'abord établir une sorte de territoire géographique, délimiter ses zones de faiblesse et ses zones de force, là où il est sûr de son jeu et là où il ne l'est pas.
Les devinettes ne sont pas seulement fonction de l'habileté de celui qui les pose, loin de là. Elles sont aussi fonction des tâches aveugles de celui qui doit les résoudre.
« Et il a des tâches aveugles ?» demanda Eddie.
« S'il n'en a pas, » répondit calmement Roland, « nous mourrons dans ce train. »
« J'adore ta façon de nous tranquilliser, » remarqua Eddie, pinçant rire. « Ça fait partie de tes nombreux charmes. »
« On lui posera 4 devinettes pour commencer, » dit Roland. « Facile, moins facile, légèrement difficile, très difficile. Il répondra aux 4, j'en suis persuadé. Mais nous, nous écouterons comment il y répond. » Eddie acquiesça. Et Susanna entrevit, malgré elle, une faible lueur d'espoir. Ça avait l'air d'une bonne approche du problème.
« Puis nous le renverrons encore une fois, et nous palabrerons, » poursuivit le pistolero.
« Peut-être aurons-nous alors une petite idée de la direction dans laquelle pousser nos montures. Ces premières devinettes peuvent venir de n'importe où, mais... »
Il désigna le livre d'un signe de tête empreint de gravité.
« Si l'on se fie à l'histoire de Jake dans la librairie, la réponse qu'il nous faut doit nécessairement figurer là-dedans, pas dans les devinettes des jours de fête dont je me souviens. Elle doit figurer là-dedans. »
« La question, » fit Susanna.
Roland la regarda, le sourcil en point d'interrogation au-dessus de ses yeux délavés, l'air dangereux.
« C'est une question qu'on cherche, pas une réponse, » précisa-t-elle.
Cette fois, ce sont les réponses qui sont susceptibles de causer notre mort.
Le pistolero l'approuva du chef. Il avait l'air perplexe, frustré même. Et Susanna n'aimait pas lui voir cette expression.
Mais quand Jake lui retendit le livre, Roland accepta de le prendre. Il le tint un moment. Sa couverture d'un rouge passé, mais gai néanmoins, faisait un drôle d'effet entre ses grandes mains tannées par le soleil, en particulier la droite, avec ses deux doigts manquants. Puis le passa à Eddie.
« À toi la plus facile, » dit Roland à l'adresse de Susanna.
« Peut-être, » répliqua-t-elle avec un léger sourire. « Mais c'est pas très poli de dire ça à une dame, Roland. »
Ce dernier se tourna vers Jake.
« Tu passeras en deuxième pour celle un peu moins facile. » « Moi, je viendrai en troisième, et toi, Eddie, en dernier. Tu en choisiras une dans le livre qui te paraîtra plutôt dur. »«
Les plus durs sont à la fin, »
l'informa Jake. « Mais pas de bêtises de ton cru, s'il te plaît.
Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Le temps de dire des bêtises est passé. »
Eddie regarda Roland, le vieux, grand et moche qui avait commis Dieu sait combien de mochetés pour atteindre sa tour, se demandant s'il avait une petite idée du mal que ça lui faisait, cette simple réprimande de ne pas se comporter comme un gosse, de ne pas lancer de vannes en rigolant, maintenant que leur vie était en jeu. Il ouvrit la bouche, prêt à en balancer une, spéciale et didine, un truc marrant et cinglant à la fois, le genre de vanne qui avait le chic pour rendre mûr son frère Henry, mais elle se ravisa. Peut-être que le vieux grand et moche avait raison. Peut-être qu'il était temps de ranger ses craques de sale gamin au placard. Peut-être qu'il était temps pour lui de grandir. 3. Au bout de 5 minutes supplémentaires de consultation à voix basse et après qu'Eddie et Susanna eurent feuilleté rapidement « Tradéridera, devine-moi », Jack savait déjà celle qu'il voulait soumettre à Blaine en premier, avait-il annoncé. Roland se rendit à l'avant du compartiment de la baronnie et posa sa main sur le rectangle au rougeoiement aveuglant. La carte itinéraire réapparut aussitôt. Bien qu'il n'ait plus aucune sensation de mouvement avec le compartiment fermé, le point vert était plus proche de Rilea que jamais.
« Eh bien, Roland, fils de Stephen !»
Eddie trouva le ton de Blaine plus que jovial. Ce dernier semblait à deux doigts de l'hilarité.
« Votre quatette est-il prêt à commencer ?»«
Oui, c'est Susanna de New York qui livrera le premier round. » Puis, se tournant vers elle, il baissa la voix.
Un peu en vain, estima-t-elle, si Blaine n'avait vraiment envie d'entendre ce qu'il lui disait, et lui glissa « Tu n'auras pas besoin de t'avancer comme nous trois, à cause de tes jambes, mais il suffira que tu parles haut et clair en l'appelant par son nom chaque fois que tu t'adresseras à lui. » Si, ou plutôt quand, il répondra correctement à ta devinette, tu lui diras « Grand merci, Cy Blaine, bien répondu. » Alors Jake s'avancera dans la travée centrale et prendra son tour. D'accord. Et s'il ne la pigeait pas, ou ne devinait pas du tout? Roland eut un sourire sinistre. Je pense que c'est une chose dont nous n'avons pas à nous préoccuper pour l'instant. Il reprit à voix haute. Blaine?
Oui, pistolero.
Roland prit une profonde inspiration. On commence.
Excellent.
Roland fit signe à Susanna. Eddie lui pressa la main. Jake lui tapota l'autre. Otte la contemplait avec ravissement de ses yeux cerclés d'or. Susanna leur adressa un sourire nerveux, puis leva les yeux vers la carte itinéraire. Salut, Blaine.
Ça boum, Susanna de New York.
Son cœur battait la chamade. La sueur lui ruisselait dessous les aisselles et elle redécouvrait cette vérité qui datait pour elle du CP. C'était dur de commencer. C'était dur de se lever devant le reste de la classe et d'être la première à chanter, à dire une blague ou à raconter comment s'étaient passées vos grandes vacances ou encore à poser une devinette tant qu'on y était. Celle sur laquelle elle avait fixé son choix était tirée de la composition d'anglais Dingo de Jay Chambers qu'il avait récité presque mot pour mot à ses compagnons au cours de leur longue palabre après avoir quitté les vieillards de River Crossing. Cet essai, intitulé « Qu'est-ce que la vérité ?», comportait deux devinettes. Eddie en avait déjà posé une à Blaine.
« Oh, Susanna, ma petite cowgirl, tu es là ?»
Il se montrait taquin à nouveau, mais d'une taquinerie bonhomme cette fois. D'une bonhomie joviale. Blaine pouvait se montrer charmant quand il obtenait ce qu'il voulait, comme certains enfants gâtés de sa connaissance. Oui, Blaine. Et voici ma devinette. Qu'est-ce qui a quatre roues et un million d'ailes? Il y eut un drôle de cliquetis, comme si Blaine imitait un claquement de langue contre le palais. Une brève pause suivit. Quand Blaine donna sa réponse, sa voix avait quasiment perdu toute sa jovialité.
Un tombereau d'ordures grouillant de mouches. Évidemment. C'est enfantin. Si vos autres devinettes ne sont pas meilleures, je vais regretter amèrement d'avoir épargné vos vies, ne serait-ce que brièvement.
La carte itinéraire lança des éclairs. Elle n'était plus rouge à présent, mais rose pâle.
« Ne le faites pas enrager !»
supplia la voix de petit Blaine. Chaque fois qu'il parlait, Susanna s'imaginait un petit bonhomme chauve, transpirant, qui se protégeait le visage au moindre mouvement qu'il osait. Si la voix de grand Blaine provenait de partout, comme la voix de Dieu dans un film de Cecil B. DeMille, se dit Susanna, celle de petit Blaine n'avait qu'une seule et unique source, le haut-parleur juste au-dessus de leur tête.
« Ne le mettez pas en colère, je vous en prie, les amis. Le mono est déjà dans le rouge, question vitesse, et les compensateurs de voix ont du mal à suivre. L'état du rail s'est terriblement dégradé depuis la dernière fois que nous sommes passés par ici. »
Susanna, qui à son époque avait eu plus que son comptant de chaos dans les trolleys et les rames de métro, ne sentait aucune différence. Pas plus d'un coup que lorsqu'ils avaient quitté le berceau de Lude. Mais elle n'en crut pas moins petit Blaine. Elle pressentait que la première secousse dont il serait conscient serait aussi la dernière. Roland lui donna un coup de coude, la rappelant à la situation présente.
« Grand merci, Cy, » dit-elle.
Puis après un temps se tapota rapidement la gorge à trois reprises de la main droite. Elle avait vu Roland faire la même chose quand il s'était adressé à Tantine Talitha pour la première fois.
Merci de ta courtoisie. »
Blaine avait à nouveau l'air de s'amuser. Et Susanna estima que c'était une bonne chose, même si c'était à leur dépens.
« Cependant, je ne suis pas du sexe féminin, dans la mesure où je suis sexué. Je suis de sexe masculin. »
Susanna regarda Roland éberlué. « Main gauche pour les hommes, dit-il, et sur le sternum. » Il lui en fit la démonstration.
« Oh !»
Roland se tourna vers Jake. Le garçon se leva, posa Otte sur son siège, peine perdue car Otte sauta immédiatement à terre et suivit Jake dans l'allée centrale où il fit face à la carte itinéraire, et concentra son attention sur Blaine.
« Salut Blaine !»« Ici Jake. C'est bien, le fils d'Elmer. »«
Pose ta devinette. »
Qui va à son cours mais ne marche point? Qui a une bouche mais ne dit rien? Qui a un lit mais n'y dort point? Qui a des bras mais pas de mains?
Pas mal. Il faut espérer que Susanna en prendra de la graine et suivra ton exemple, Jake, fils d'Elma. La réponse doit paraître évidente à tout être doué d'un brin d'intelligence, mais c'est néanmoins une tentative méritoire. La réponse, c'est un fleuve.
Grand merci, Saïblen. Tu as bien répondu.
Il se tapota trois fois le sternum des deux doigts de sa main gauche, puis alla se rasseoir. Susanna l'entoura de son bras et le serra contre elle brièvement. Jake lui jeta un regard reconnaissant. Ce fut au tour de Roland de se lever. « Heil, Blaine !» dit-il.
« Heil, pistolero !»
Une fois de plus, Blaine parut amusé, par le salut, peut-être, que Susanna entendait pour la première fois. « Heil qui ?» s'interrogea-t-elle. Hitler venait automatiquement à l'esprit et ça la fit se souvenir de l'avion abattu qu'ils avaient trouvé en dehors de Lude. Un Focke-Wulf, avait déclaré Jake. Si là-dessus il ne se prononçait pas, elle savait en revanche que l'écumeur qu'ils avaient découvert était plus que mort, puisqu'il ne puait même plus.
« Pose ta devinette, Roland, et qu'elle soit belle et bonne. »
Je ferai bel et bien de mon mieux, Blaine. En tout cas, la voilà. Qui a quatre pattes le matin, deux l'après-midi et trois quand la nuit vient?
En voilà une, en effet, qui est belle et bonne,
admit Blaine.
Simple, mais néanmoins belle et bonne. La réponse est un homme. Il se traîne à quatre pattes quand il est bébé, marche sur ses deux jambes une fois adulte et cède d'une canne dans sa vieillesse.
La voix de Blaine trahissait la suffisance et Susanna prit soudain conscience de ce fait médiocrement intéressant. Elle exécrait cette chose meurtrière et contente d'elle-même. Machine ou pas, sexuée ou pas, elle exécrait Blaine. Elle aurait exécré de toute façon, même s'il ne les avait pas forcés à jouer leur vie dans ce stupide concours de devinettes. Roland, cependant, ne parut pas décontenancé le moins du monde. « Grand merci, Cy Blaine. Tu as donné la bonne réponse. » Il se rassit sans se frapper le sternum, et lança un regard à Eddie. Ce dernier se leva et s'avança dans la travée.
« Alors, qu'est-ce que tu glandes, mec ? Blaine ? » demanda-t-il.
Roland se crispa, faisant nom de la tête. Puis il se dissimula les yeux de sa main mutilée. Silence de la part de Blaine.
Blaine, y es-tu ?
Oui, mais je ne suis pas d'humeur frivole, Eddie de New York. Pose ta devinette. Je soupçonne qu'elle sera difficile, malgré tes airs affichés décervelés, il me tarde de l'entendre.
Eddie jeta un coup d'œil à Roland, qui d'un signe de la main lui enjoignit
« Vas-y, au nom de ton père, lance-toi !»
Puis, il fit face à nouveau à la carte itinéraire où le clignotant vert venait de dépasser le point marqué Rilea. Susanna s'aperçut qu'Eddie soupçonnait ce qu'elle-même ne savait que trop. Blaine avait compris qu'il testait ses capacités en lui proposant un éventail de devinettes. Blaine était au courant et s'en réjouissait. Susanna, le cœur serré, prit conscience que tout espoir de trouver rapidement et facilement une issue à cette situation était perdu. 4.
Bon, fit Eddie, je ne sais pas si tu la trouveras difficile, mais à moi, elle m'a paru dure. D'autant qu'il ne connaissait pas la réponse, puisque les pages de cette partie de Tradéridéra devine-moi étaient arrachées. Mais d'après lui, ça ne faisait aucune différence. L'obligation de connaître les réponses ne faisait pas partie des règles de base.
Je t'écoute et je te répondrai.
À peine parlé, déjà brisé, qu'est-ce que c'est ?
Le silence, quelque chose dont tu n'as qu'une faible idée, Eddie de New York,
dit Blaine tout à trac. Eddie sentit une pointe de découragement. Inutile de consulter les autres, la réponse semblait aller de soi. Et qu'elle lui soit renvoyée aussi vite, c'était vraiment galère. Eddie ne l'aurait jamais avoué, mais il avait nourri secrètement l'espoir, la quasi-certitude de battre Blaine avec une seule devinette, échec et mat, si bien que tous les chevaux du roi et tous les hommes du roi n'auraient jamais pu remettre Blaine tout droit. Cette certitude secrète était la même, supposait-il, que celle qu'il nourrissait chaque fois qu'il prenait les dés en main lors d'une partie de craps dans le tripot d'un grugeur notoire, ou encore chaque fois qu'il lui fallait tirer 17 au blackjack. Ce sentiment qu'on ne peut pas se planter parce qu'on est soi, le meilleur, le seul et l'unique. « Ouais, » fit-il en soupirant. « Le silence. Un truc dont je sais pas grand-chose. Grand merci, Cy Blaine. » Tu as dit vrai.
J'espère que tu as découvert quelque chose dont tu tireras profit.
Eddie le traita in petto de menteur mécanique de merde. La voix de Blaine avait retrouvé son ton suffisant. Qu'une machine puisse déployer un tel échantillonnage d'émotions éveilla en Eddie un intérêt fugitif. Les grands anciens le lui avaient-ils incorporé lors de sa construction ? Ou bien Blaine s'était-il doté lui-même de cet arc-en-ciel émotionnel à un certain stade ? Une petite gâterie dipolaire pour oublier la longueur des décennies et des siècles ?
Voulez-vous que je me retire à nouveau afin que vous puissiez vous consulter ?
Oui, dit Roland. La carte itinéraire vira à un rouge éblouissant. Eddie se retourna vers le pistolero. Roland eut beau reprendre rapidement contenance, Eddie eut le temps de surprendre une horrible lueur de totale désespérance dans ses yeux. Eddie ne lui avait jamais connu un regard pareil jusque-là. Pas même quand Roland se mourait suite aux morsures des omarstruosités. Pas même quand Eddie avait braqué son propre revolver de pistolero sur lui, ni même quand le hideux gâcheur avait capturé Jake et disparu avec lui dans l'Ude.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Demanda Jake. On repart tous les quatre pour un tour ?
Je crois que ça ne nous mènerait pas bien loin, dit Roland. Blaine doit connaître des milliers de devinettes, peut-être même des millions. Et ça, c'est très mauvais pour nous. Pire encore, le pire de tout, il comprend comment on fait pour deviner la partie du cerveau qu'il faut utiliser à la fois pour créer des devinettes et les résoudre. Il se tourna vers Eddie et Susanna, qui s'étaient rassis dans les bras l'un de l'autre. « Je me trompe ?» leur demanda-t-il. « Vous êtes bien d'accord ?
Oui,
dit Suzanne. Eddie approuva du chef à contre-cœur. Il ne voulait pas en convenir et pourtant, il y vint.
Alors ?
Fit Jake.
On fait quoi, Roland ?
Je veux dire, il doit bien exister un moyen pour nous tirer de là,
non ?
Eddie exhorta Roland mentalement. « Mon lui, salopard !» Roland, captant peut-être sa pensée, fit de son mieux. Il passa sa main amputée dans les cheveux de Jake, qui les bourriffa. « Je crois qu'il existe toujours une issue, Jake. Le seul problème, c'est de savoir si nous aurons ou non le temps de trouver la bonne devinette. » Il nous a dit qu'il mettait un peu moins de 9 heures pour accomplir son parcours.
8h45,
précisa Jake. Ce qui ne nous laisse pas beaucoup de marge. Cela fait déjà presque 1 heure que nous roulons. Et si la carte est exacte, nous sommes à mi-chemin de Topeka, ajouta Susanna d'une voix tendue. Et peut-être que notre pote mécanique nous a menti sur la durée du parcours, histoire de couvrir un peu ses enjeux.
Ça se pourrait, tomba d'accord Roland.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Répéta Jake. Roland inspira profondément et retint son souffle avant d'expirer à nouveau. À partir de maintenant, moi seul vais lui poser des devinettes, si vous voulez bien. Je lui poserai les plus difficiles dont je me souvienne des jours de fête de ma jeunesse. Puis, Jake, quand nous serons sur le point de... Si nous approchons de Topeka toujours à la même vitesse et sans avoir collé Blaine, je crois que tu devras lui poser les toutes dernières devinettes de ton livre, les plus dures. Il se frotta la joue avec un affolement certain et regarda la sculpture de glace. Ce rendu réfrigérant de son apparence était maintenant méconnaissable, sa masse ayant fondu. Je continue à penser que la réponse doit se trouver dans le livre. Pourquoi, sinon, aurais-tu été amené jusqu'à lui avant de revenir dans ce monde-ci ?
Et nous ? Demanda Suzanne. On fait quoi, Eddie et moi ?
Réfléchissez, dit Roland, réfléchissez au nom de vos pères.
Je ne tire pas avec ma main, dit Eddie.
Il se sentit soudain très loin, comme absent à lui-même. Il avait éprouvé la même chose quand il avait vu pour la première fois la fronde, puis la clé dans des morceaux de bois qui n'attendaient que lui pour les libérer en les sculptant. Et à la fois, ce n'était pas du tout le même sentiment. Roland le regarda bizarrement.
« Oui, Eddie. Tu dis vrai, un pistolero tire avec sa tête. »
À quoi tu penses ?
À rien.
Il aurait pu en dire plus, mais tout à coup une image étrange, un souvenir étrange, s'interposa. Roland accroupi près de Jake lors de l'une de leurs haltes sur la route de Lude. Tous deux face à un feu de camp non allumé. Roland donnant une fois encore une de ses sempiternelles leçons. Le tour de Jake était venu. Jake, qui avec le silex et l'acier tâchait d'activer la flamme, étincelle après étincelle jaillissait puis mourait dans le noir. Et Roland l'avait traité de bêta. Avait dit qu'il n'était rien d'autre, ben, qu'un gros bêta.
Non, fit Eddie, il n'a pas du tout dit ça, en tout cas pas au gosse, non.
Eddie, s'inquiéta Susanna presque avec effroi.
Ben, pourquoi tu lui demandes pas à lui ce qu'il a dit, frangin ?
C'était la voix d'Henry, la voix du grand sage et éminent junkie. Ça faisait une paye.
Demande-lui, il est pratiquement assis à côté de toi, vas-y, demande-lui ce qu'il a dit. Arrête de tourner autour du pot comme un niard caché dans ses pampers.
Sauf que c'était une mauvaise idée parce que les choses ne se passaient pas comme ça dans le monde de Roland. Dans son monde à lui, Roland, tout procédait par devinette. On ne tirait pas avec sa main, mais avec sa tête. Sa putain de tête. Et qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un qui ne réussit pas à faire flamboyer une étincelle ? Plus près ton silex. C'était bien sûr ce que Roland t'avait dit. Plus près ton silex et tiens-le d'une main ferme. Sauf que ça ne concernait en rien leur sujet. C'en était proche, évidemment, mais proche, ça compte que si c'est dans la poche, comme avait coutume de dire Henry Dean avant de devenir le grand sage et éminent junkie. La mémoire d'Eddie faisait des embardées, en partie parce que Roland l'avait plongé dans l'embarras, lui avait fait honte, avait lancé une vanne à ses dépens. Probablement pas à dessein, mais il y avait eu quelque chose. Quelque chose qui l'avait renvoyé à l'effet que lui faisait toujours Henry. Évidemment que c'était ça. Qu'est-ce qu'Henry viendrait faire ici après une aussi longue absence? Tous le regardaient à présent, même ôté. « Va donc !» dit-il à Roland avec une légère aigreur. « Tu voulais qu'on réfléchisse ?»« Eh bien, on a déjà commencé. » Pour sa part, il pensait si fort, le tire avec ma tête, que sa matière grise lui semblait en feu, mais il n'allait pas dire une chose pareille au vieux, grand et moche. « Va donc poser des devinettes à Blaine. Assume ton rôle. » Comme tu voudras, Eddie. Roland se leva de son siège, s'avança et posa sa main sur le rectangle écarlate. La carte itinéraire réapparut aussitôt. Le clignotant vert s'était encore éloigné de Rilea, mais il était clair pour Eddie que le monorail avait ralenti de façon significative, soit obéissant à un programme préétabli, soit parce que Blaine voulait faire durer le plaisir.
Ton casse-tête est prêt à continuer les devinettes de notre jour de fête, Roland, fils de Stephen.
Oui, Blaine, dit Roland, et aux oreilles d'Eddie, sa voix parut monocorde. À présent, moi seul vais t'en poser pendant quelque temps, si tu n'y vois pas d'objection.
En tant que Dean et père de ton casse-tête, tu en as parfaitement le droit. Tu vas me poser des devinettes de jour de fête.
Oui.
Bien.
Il y avait une satisfaction répugnante dans le ton de cette voix.
Je veux bien en entendre de nouvelles.
Très bien. Roland inspira profondément, puis se lança. « Tu me donnes à manger, je vis. Tu me donnes à boire, je péris. Qui suis-je ?»«
Le feu !»
Aucune hésitation. Rien que cette suffisance insupportable. Un ton qui disait « C'était déjà une vieillerie pour moi du temps que ta grand-mère était jeune fille, mais... » Tente à nouveau ta chance. Ça fait des siècles que je ne me suis pas autant amusé, alors essaie encore. Devant le soleil, j'ai beau passer, aucune ombre ne fait. Qui suis-je, Blaine ?
Le vent !
Toujours pas d'hésitation. Tu as dit vrai, Sai. Suivante. Aussi léger qu'une plume, nul homme ne peut me retenir des lunes et des lunes.
Son propre souffle.
Aucun temps d'hésitation. Et pourtant, il a hésité, songea soudain Eddie. Jake et Susanna regardaient Roland, concentrés à mort, serrant les poings, désirant de toute leur force qu'il pose la bonne devinette à Blaine, celle qui le collerait pour de bon, celle où se cachait cette putain de carte de Monopoly. Vous êtes libéré de prison. Il ne fallait plus qu'Eddie les regarde. Susie surtout, s'il ne voulait pas se déconcentrer. Baissant les yeux, il constata que lui aussi serrait les poings et se força à mettre ses mains à plat sur les genoux. Il fut surpris par la difficulté qu'il rencontra à le faire. Pendant ce temps, il entendait Roland continuer à divider les bonnes vieilles devinettes de l'âge d'or de sa jeunesse. « Devine-moi un peu celle-là, Blaine. Si jamais tu me brises, je n'arrête pas de marcher. Si jamais tu me perces Ma tâche est terminée. Si jamais tu me lasses, tu devras me reconquérir avec un anneau peu après. Qui suis-je ?
Susanna retint sa respiration un instant, et bien qu'il garda les yeux baissés, et dit, savait qu'elle pensait la même chose que lui, celle-là était bonne, vachement bonne.
Peut-être que... Le cœur,
dit Blaine sans une once d'hésitation.
Cette devinette s'appuie pour une bonne part sur des métaphores poétiques chères aux humains. Voir, par exemple, John Avery, Sir Hans, Ondola, William Blake, James Tate, Veronica Mays et consorts. Il est remarquable de voir combien le genre humain s'embarrasse l'esprit de l'amour. Et ça ne varie pas d'un niveau de la tour à l'autre, même en s'étant dégénéré. Continue, Roland de Gilead.
Susanna retrouva son souffle. Eddie dut lutter à nouveau pour ne pas serrer les poings. Plus près ton silex, au nom de ton père. Et Blaine le mono poursuivit sa course en direction du sud-est, sous la lune du démon.